Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Au programme cette semaine des Good Gone, inspirés et rafraîchis en ce début d'automne qui enfin décide de pointer le bout de son nez. Nous dirons tout le bien que nous pensons d'une belle initiative d'édition, celle du Facteur Gallo avec Thomas Pourchaire, à l'initiative de cette nouvelle façon de diffuser la littérature. Gaël nous fera prendre un bain dans les eaux des fleuves à l'initiative de la nouvelle exposition du Musée des Confluences. Guillaume nous dira tout le bien qu'il pense du dernier album de Stéphane Escher en concert au Radio en Bellevue le 3, 4 et 5 avril prochain. Et bien entendu, nous terminerons avec nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. On débute avec mon invité Thomas Pourchaire, à l'origine avec d'autres passionnés de littérature, écrivain également, à l'origine du Facteur Gallo. Une nouvelle façon de diffuser de la littérature. Bonjour, je suis ravie en fait de vous recevoir sur ce plateau et d'évoquer cette initiative qui a su attirer ma curiosité, je dois le dire. Vous avez imaginé un concept d'édition qui n'est évidemment pas banal, mais il va falloir nous expliquer de quoi il ressort, Thomas.
Je vous dirai tout. Je pense que c'est une convergence de choses, mais il y a eu cette histoire du confinement, de l'enfermement, de ces balades limitées à 1 km, ce côté entre soi un peu paradoxal, et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire simplement. Donc l'initiative, elle est partie, on était tous confinés, donc on a commencé à distance sur l'idée de sortir de l'entre-soi de la littérature, justement, par un acte gratuit, qui est celui de donner en plus à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Des livres, vous savez qu'il y a une tendance, hein, ces boîtes à livres qui sont semées un petit peu partout. Ben là, on s'est dit, on va concevoir des livres pour ça, pour être semé.
Si j'ai bien compris, on achète des livres et on en a 3.
3 fois 3 différents.
Donc, on a 3 livres qu'on peut distribuer 3 fois.
Et vous avez le droit de les lire avant.
Tout ça pour 20 euros. C'est un prix forfaitaire.
C'est un acte gratuit de don, mais qui n'est pas gratuit.
Mmh. On retrouve ces informations où ? Est-ce que vous êtes diffusé en librairie ? Est-ce qu'on vous trouve uniquement sur votre site internet ? Comment se passe la diffusion de vos éditions, Thomas ?
Alors, on est passé par une campagne de
crowdfunding
participatif. Hein, mmh. Et là, on est en train de mener à bien la deuxième campagne pour notre série 2. Là, vous avez entre les mains notre série 1 qui est sortie en début d'année. Mais on a des libraires qui, depuis, se sont inscrits dans notre démarche. Donc, on en a 5 à Lyon. C'est ce qui est chouette.
Oui, c'est déjà bien.
Ouais, il y a la Voix au chapitre dans le 7e arrondissement. Il y a la Virevolte du côté de Saint-Paul. Il y a Vivement Dimanche sur le plateau. Il y a Ouvrir l'œil sur les pentes. Mmh. Et il y a le Bal des Ardents, pas loin de là où on est tout de suite, qui nous a également bien suivis. Ouais.
Donc ça, c'est important aussi à la fois d'être visible chez des libraires qui défendent ce type de diffusion de la littérature, mais aussi d'essaimer sur les réseaux sociaux, dans d'autres villes, etc. C'est-à-dire de ne pas rester local. Ça, c'est très important, je pense, pour les éditions du Facteur Gallo.
Votre question, elle est importante parce qu'elle permet de souligner que c'est pas parce qu'on est passé par un financement participatif qu'on veut contourner ou dénoncer quoi que ce soit de la chaîne du livre. La chaîne du livre aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe sur le terrain, c'est des centaines, quelques milliers, mais pas beaucoup plus de librairies indépendantes qui tiennent encore debout, qui sont des gens formidables, qui sont les commerces les moins rentables possibles. Hein, donc c'est vraiment une vocation et faut le souligner. Donc c'est pas du tout une démarche anti-libraire, au contraire, c'est de porter la littérature là où elle n'est pas. Pour nous, c'est vraiment chouette d'avoir déjà 5 libraires qui nous suivent et pourquoi pas développer cet aspect-là.
Alors parlons de l'objet en question. On parle de livres, mais ce sont des petits livres, fins, extrêmement beaux. C'est-à-dire, l'objectif est de faire quelque chose en fait, d'extrêmement esthétique. On donne quelque chose de beau et de qualitatif. Ça, c'est important aussi.
Ouais. Le but, c'est que, comme ils sont faits pour être déposés quelque part, évidemment qu'on ait envie de les ramasser.
C'est ça. Couverture de couleurs, une très belle typo.
Avec des très belles couleurs, ouais. une typo qu'on a achetée spécifiquement.
Et à l'intérieur, un texte écrit très fin. Ouais. Une volonté, peut-être, de s'approcher de l'objet et d'avoir un contact pratiquement sensuel avec l'objet, c'est-à-dire assez près de soi.
J'aime bien que vous le disiez comme ça. Je ne sais pas si c'était pensé jusqu'au bout, mais j'aime bien. On va dire que c'était prévu comme ça.
C'est bien. Non, mais c'est vrai. Étant donné que c'est écrit petit et plus petit que dans la plupart des ouvrages, il faut le dire, parce que vous avez envie, en fait, de conserver aussi sans doute quelque chose de petit, en fait, qui peut être mis dans une poche, qui peut être mis dans un sac, qu'on peut emmener dans les transports facilement, qu'on peut laisser dans un train. Bref, c'est aussi cet objet qui oblige, en fait, de se rapprocher, en fait, de ces ouvrages. Et je trouve que ce geste-là, il est très important. Et on peut le tenir dans une seule main. Ça aussi, c'est intéressant. Dans nos vies bousculées.
Oui, c'est un format vertical, on est en 20 x 10, qui est un format assez peu classique, hein. On a assez peu de livres en librairie sur ce format-là, ça peut se rapprocher un petit peu d'une maison d'édition du sud-ouest de la France. Le but là aussi, c'est que ça attire l'œil. Le but, au travers de ce que vous avez décrit, c'est aussi qu'on arrive à contenir le prix de l'objet, sans que ce soit cheap, pour parler français.
Pour 20 euros, je le rappelle, nous avons donc
9 livres.
Voilà. Donc, comment on imprime ça pour garder justement ce prix constant? Est-ce que vous avez réussi à avoir des partenariats avec des imprimeurs? Comment on fait concrètement?
Alors on passe par un imprimeur très connu de la place lyonnaise ou un petit peu plus loin. Hein, il est à Saint-Just, la Pendue, dans la Loire.
Ouais.
Donc c'est un imprimeur bien connu. C'est vrai qu'on est vraiment sur une frugalité de dépenses. Notre seule dépense, c'est l'impression. On n'a pas de chaîne de distribution à alimenter, mais pour les libraires qui sont partenaires, on leur donne une marge qui n'est pas celle que proposent certains éditeurs, mais on n'est pas si loin non plus, on y arrive, on comprime tout, hein, en fait. Et en fait, les auteurs nous soutiennent aussi. Hein,
Bien sûr.
C'est vraiment une démarche très militante qui vise pas à donner des leçons aux éditeurs qui sont dans un modèle économique plus classique. Mais voilà, comme on sort de l'entre-soi, on s'est dit c'est important de faire l'effort qui nous permet d'aller le plus loin possible dans la gratuité, entre guillemets.
Alors effectivement, chaque petit livre fait 2,22 €. Une dernière chose pour terminer cet entretien passionnant. Vous appelez des auteurs à vous contacter.
Oui, c'est complètement indispensable que les auteurs s'inscrivent dans notre démarche. Déjà parce que notre format, il est tellement peu classique que de toute façon, les manuscrits qui nous seraient envoyés un peu à l'aveugle, parce que certains auteurs, et très mal de dire ça en tant qu'auteur moi-même, on peut arriver parfois à envoyer des manuscrits à des éditeurs sans avoir suffisamment réfléchi à ce qu'on envoyait à tel éditeur. C'est mal, je ne recommencerai plus. Là, forcément, il faut rentrer dans le format. Donc, la plupart des auteurs n'ont pas sous le coude un manuscrit au format qui nous convient. Voilà. Et nous, on a un nombre de pages figé.
Alors, Thomas Pourchaire, vous le disiez, vous êtes bien sûr auteur.
Texte, c'est un éditeur associatif aussi, ouais, qui existe depuis presque 40 ans. Il est remarquable, hein, d'endurance, il fait tout chez lui. C'est une démarche extraordinaire. Donc voilà, il m'a suivi sur un texte, et sinon je suis publié aux éditions Abstraction.
Ouais.
Qui a une démarche un peu différente, mais remarquable aussi. C'est vrai que Gros Texte, c'est une très belle histoire, parce qu'il a un catalogue de noms qui ont fait leur chemin aussi par ailleurs, et qui ont publié chez Gros Texte justement des textes un petit peu en marge, au format moins classique.
On mettra en référence bien sûr sur notre site toutes les références des éditeurs que nous avons évoqués, bien sûr des éditions du Facteur Gallo, pour que vous puissiez à Noël par exemple, on commence à parler déjà des petits cadeaux de Noël, eh bien essaimer ces superbes petits livres. Est-ce qu'on peut citer peut-être quelques noms d'auteurs qui vous ont suivi, notamment pour la première série?
Oui, pour la première série, dont il nous reste encore quelques lots, effectivement. Donc il y a Corinne Guercy avec Les Petites Lumières Bleues, d'une auteure du coin, je ne vais pas dire de Lyon parce que c'est Villeurbanne, mais c'est quand même pas bien loin. Donc première série, Les Comportements du Doux d'Amélie Berthollet-Yengo, qui est une autrice de la région parisienne, Montreuil pour être plus précis, on ne prend jamais la capitale elle-même. Très beau texte également. Et vous avez Mélusine au gasoil de Florent Tognello, qui est un auteur d'origine lyonnaise mais qui vit au Luxembourg depuis 20 ans et qui est assez connu parce qu'il a déjà publié un certain nombre de livres. Et donc notre deuxième série qu'on a annoncée d'ores et déjà, mais les livres ne sont pas imprimés encore. On a un texte qui s'appelle Slum de Manuel Reynaud-Guido. On a un texte qui s'appelle Novembre de Noémie Gallet. C'est dommage, je n'ai pas le temps de présenter les livres. Il y aurait à dire sur chacun, évidemment. Et,
on en reparlera, je suis persuadée.
Il s'appelle Mnésie de Nada Issa.
On va s'intéresser de près à ces éditions du Facteur Gallo. Merci beaucoup, Thomas. On enchaîne avec toi, Gaëlle, qui se jette à l'eau cette semaine pour nous parler de la dernière exposition événement du Musée des Confluences. Décidément, tu es de tous les défis en ce moment, Gaëlle.
Alors, en effet, cette exposition qui s'appelle « Nous, les fleuves » est programmée au Musée des Confluences. Vaisseau dont les façades accrochent les reflets de l'eau, du Rhône et de la Saône, ce qui forme l'écrin et le lieu idoine pour une exposition consacrée aux fleuves du monde. Hélène Lafont-Couturier souligne « Cette exposition est un peu comme un voyage ». Éric Orsena, académicien, célèbre écrivain et président de l'IAGF, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, signe le commissariat scientifique de l'exposition. Éric Orsena a toujours écrit « et navigué ». Il insiste « si vous voulez comprendre la vie, allez voir cette exposition ». Car sans fleuve, il n'y a pas de personne et le fleuve est un personnage. Parallèle saisissant pour ce lauréat du prix Goncourt 1988 avec l'exposition coloniale, livre où le fleuve Amazon était précisément un personnage à part entière. L'exposition « Nous les fleuves » combine admiration esthétique, enjeux politiques et perspectives d'optimisation de la sauvegarde des fleuves. Un fleuve bien géré, depuis la source jusqu'au delta, garantit sa santé ainsi que celle des populations. Éric Orsena nous interpelle. Dites-moi quelle relation vous entretenez avec votre fleuve et je vous dirai à quel type de société vous appartenez. Le Gange raconte l'Inde, le Nil l'Égypte et le Mississippi le sud des États-Unis. Nous les fleuves révèlent combien l'eau est un miroir des civilisations. Le Musée des Confluences ne faillit pas à l'excellence de la scénographie et l'interdisciplinarité de son approche autour d'un parcours organisé en 4 temps. Source, confluent, lit des fleuves et enfin delta et estuaire. Une fascinante sculpture composée de multiples gouttes suspendues ouvre le parcours. L'œuvre de l'artiste contemporaine Laura Fischer a pour titre « La pluie ». Chaque goutte en résine comporte une mousse ou une fougère ou une herbe, de la laine, des insectes, des coquilles ou encore du sable, de la terre, de la roche. C'est un recensement de tout ce que l'on peut trouver dans un fleuve. Puis la scénographie nous plonge dans l'eau. Nous ne sommes pas sur les berges du fleuve mais bien dans l'eau. Et qui nous parle ? Le fleuve qui est personnifié. Le fleuve a toujours été source de vie des grandes civilisations. Propos illustré par une enluminure du Jardin d'Éden du début du XVe siècle avec le paradis, source de 4 fleuves. Le Gange, le Nil, le Tigre et l'Euphrate. Savez-vous d'où le Gange tire son appellation ? De Ganga, la déesse du Gange, fleuve né de la chevelure du dieu Shiva. De nombreuses croyances sont associées au fleuve. Arrêtez-vous devant les masques cimiers contemporains en forme de créatures aquatiques et utilisés dans le delta du fleuve Niger pour les mascarades qui implorent des pêches fructueuses. Or, pêche et mode de vie des populations sont de plus en plus remis en question avec la pollution des fleuves. L'œuvre de Tiwan Kushili, amérindienne Wayana en Guyane française, l'atteste. Sur un immense panneau de bois d'amarante, l'artiste indique les taux de contamination dû au plomb et au mercure à côté de chaque espèce qu'elle a peinte. Autre travail superbe mais inquiétant, les photos de 2018 du réalisateur et photographe australien Paul Harmon. Ces cadrages vus du ciel sur des territoires toujours plus asséchés alertent, tout comme la dégradation des bassins versants. Bassin versant abordé, dont Confluence, la deuxième section qui évoque l'arborescence des fleuves. Pour comprendre les fleuves, il faut comprendre les bassins versants. Ok, je répète. Pour comprendre les fleuves, il faut comprendre les bassins versants. Vous ne pouvez pas repartir de cette exposition sans saisir l'importance capitale des bassins versants. Si le bassin versant est mal géré, l'effet domino au niveau transfrontalier est désastreux. Penser un fleuve, c'est penser macro, au-delà des frontières traversées et jusqu'à chaque affluent. Le plus grand fleuve du monde traverse 9 pays. Quel est-il ? l'Amazone, d'une longueur de 7025 km. Le Rhône fait 812 km, mais c'est le fleuve le plus aménagé au monde. Une passionnante et instructive map monde des chevelus figure dans l'exposition. Pourquoi les chevelus ? Car c'est le nom donné à l'arborescence dessinée par l'ensemble des affluents. Devant la map monde des chevelus, prenez le temps également d'actionner la vaste table interactive de la confluence Rhône-Saône de Lyon. Cette deuxième section de parcours soulève également la question de la couleur des fleuves. La couleur, indicateur significatif de la santé de l'eau, varie selon les territoires parcourus en amont. En 1970, pour éveiller, voire réveiller les consciences, l'artiste argentin Nicolas Garcia Uriburu a coloré avec de la fluorescéine le Rio de la Plata à Buenos Aires. Résultat visuel plus qu'impactant. Et qu'est-ce que l'eau ? Le reflet du ciel sur la terre. Eric Orsena révèle que chaque grand peintre est un professeur du regard. Ainsi, plusieurs tableaux suggèrent l'évolution du traitement pictural des fleuves dans l'histoire de l'art. Vous verrez des Corot, Manet, Pissarro, Renoir, Marquet. Ils sont présents dans l'exposition pour offrir une vision artistique et non pas scientifique des fleuves. Car la science n'épuise pas le réel. L'art explique aussi les fleuves, tout comme la politique. Qui maîtrise la force du fleuve gagne le pouvoir. Yu le Grand serait devenu empereur chinois grâce à sa maîtrise du fleuve jaune en construisant des digues et des canaux. La section consacrée au lit des fleuves aborde les relations entre ville et fleuve, ainsi que les nouveaux paysages façonnés dans les milliers de mètres cubes d'eau charriée. Cas des canyons formés par le fleuve Colorado. Le musée n'oublie pas la vaste biodiversité des fleuves, crocodiles, requins bulldogs, hippopotames, attardez-vous devant les vitrines. Enfin, où se mêlent eau douce et eau salée ? Dans les deltas et estuaires, dernière section de l'exposition axée sur les différentes activités aux abords des fleuves. Plusieurs maquettes de barques illustrent ce propos, mais aussi l'idée du rite de passage d'une rive à l'autre, ainsi que la mythologie en parallèle avec le fleuve qui amène à la mort. Des harpes ornent une barque du Gabon de la fin du 19e pour exprimer le lien avec l'au-delà. Tout comme le passeur Charon, peint par Jean-Philippe Aubanel, ce fameux passeur qui fait traverser aux défunts le Styx, le fleuve des enfers. L'exposition se termine avec votre reflet mouvant et fragmenté par une multitude de facettes miroirs. Laurent Valera signe cette œuvre intitulée « Le regard de l'eau », une sculpture dynamique qui pousse à l'introspection, car l'eau offre un reflet et pousse à la réflexion. L'exposition « Nous les fleuves » est à voir au musée des Confluences jusqu'au 27 août 2023. Je vous recommande vraiment d'aller voir cette exposition. Et si vous souhaitez plus d'informations, c'est sur museedesconfluences.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. On va se plonger dans cette exposition avec délices, effectivement. Nous poursuivons notre émission avec toi Guillaume et la musique de Stéphane Escher qui innove encore et nous surprend avec son dernier album intitulé sobrement Ode.
Oui, tout à fait. Stéphane Escher est un ami. Alors pas un de mes amis, mais disons que c'est quelqu'un qu'on suit depuis très longtemps et je m'aperçois que je l'ai découvert la première fois sur la scène du Transborder le 19 avril 1992. Donc il y a 30 ans et 6 mois. Donc ça fait une paye. Et Stéphane Escher, donc, avec ce nouvel album, c'est son 17e, eh bien, continue de surprendre. Alors vous savez qu'il a eu quelques soucis avec son label, qui finalement lui interdisait un petit peu de sortir des albums comme il le souhaitait. Et puis depuis 2020, avec le précédent disque Homeless Song, eh bien, ça y est, il est enfin libéré de toutes ses contraintes. Donc avec Ode, il nous offre une collection de chansons. Alors on en connaît certaines parce qu'il a sorti précédemment, après le confinement, deux EP hein, de 4 et 3 chansons, donc 7 au total. Et puis se rajoutent 5 autres chansons sur cet album. Alors évidemment, Stéphane Escher, on connaît tous sa voix. Voilà, elle est très reconnaissable. Voilà, dès qu'on l'entend passer à la radio, évidemment, on ne peut pas déjeuner en paix sans Stéphane Escher. Et bon, lui reconnaît que cette chanson, il en a un petit peu marre sur scène, mais il est quand même content de la chanter. Et donc, avec ce nouvel album, ce qui est assez passionnant, c'est que voilà, il fait quelque chose d'assez gay entre guillemets. On est dans une société quand même un petit peu qui nous invite un peu à la voilà, c'est un petit peu dur en ce moment, des guerres, des Covid. En plus, lui a quand même eu quelques soucis familiaux puisqu'il a perdu ses deux parents pendant le Covid, donc c'était quand même quelque chose d'assez dur. Et donc là, il nous ouvre en fait avec cet album les bras aussi loin qu'il le peut, et il nous étreint une fois de plus avec une volée de chansons bleues qui dessine une ode à la fraternité. Donc il nous avait bouleversé comme les songs, mais là, cette ode de notre grand Suisse, j'aime bien l'appeler le grand Suisse plutôt que le petit Suisse, poursuit dans cette veine un peu humaniste, intimiste, qui touche à l'universel. On accepte bien sûr ces histoires et qui nous réunissent autour des mots, encore une fois, de Philippe Djian, pour la majeure partie des titres, mais aussi de Martin Suter, donc entre Orage et Éclaircie, qui sont deux titres de l'album. Donc 17e disque qui réunit donc les deux EP. Et puis, comme souvent, il a des musiciens extraordinaires, et notamment ce pianiste fabuleux qui s'appelle Ren Uwe Hand, que je vous invite à découvrir sous son pseudo Ren, R-E-Y-N. Il fait des concerts souvent sur Internet, voilà, au piano solo. Et c'est un musicien assez extraordinaire. Donc, il nous accompagne depuis donc 42 ans, puisqu'il a commencé son projet Stéphane Escher avec son frère et un groupe qui s'appelait Grauzone en Suisse, qui est absolument énorme, qu'on peut encore écouter aujourd'hui, qui est vraiment d'une modernité totale. Et puis, il nous dit quand même, pour conclure sur ce disque, il nous dit, en évoquant sur les réseaux sociaux, il nous dit « Ode ou ma modeste tentative d'expliquer ce monde agité en une étreinte musicale. Oui, je sais, c'est osé, mais je pense qu'en ces temps difficiles, il faut oser écouter des choses agréables. » Donc on va écouter des choses agréables avec Stéphane Escher. Alors comme tous les disques, on a tout le temps une chanson qui nous fait de l'œil, et puis à force d'écoute, eh ben, c'est plus la même. Donc je voulais vous faire écouter le plus léger au monde, et en fait, non, on va écouter « Autour de ton cou » parce que pour l'instant, c'est ma chanson préférée de l'album aujourd'hui.
C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser nous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou, tu la voulais fière, tu l'as mise à genoux. Trop de somnifères, trop des ventres mous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou, c'est pas moi qui serre autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. C'est lutte, c'est galère, c'est tous ses écrous. C'est pas moi qui serre autour de ton cou. Autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser nous. Ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou, ses luttes, ses galères, c'est tout. Ces écrous, c'est pas moi qui sais. Retour de ton cou.
On vient d'écouter Autour de ton cou de Stéphane Escher, extrait de son dernier album Ode. Cette chanson, les paroles sont assez touchantes. Ce n'est pas moi qui sers autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. Donc encore une fois, les mots de Philippe Jean qui font mouche. Donc je vous invite à découvrir Stéphane Escher avec son dernier album. Et puis comme tu l'as dit dans l'introduction de l'émission, il passe au Radiant, Bellevue, à Caluire, les 3, 4 et 5 avril 2023. Et je vous invite vraiment à aller l'écouter.
Merci beaucoup, Guillaume. Place au Gédéon pour terminer cette édition, comme d'habitude. Alors, place aux dames. Gaëlle, de quoi vas-tu nous parler cette semaine?
Mon Gédéon de la semaine commence par des indices.
Ah.
Quel est le point commun entre Hollywood, les années 50, un western, les prud'hommes femmes, James Dean qui préfère le sans contact, une recette de béchamel pour rendre les endives au jambon moins amères, une hernie discale, prendre un carré familial dans le TGV avec des enfants qui jouent bruyamment au Uno, visiter la moyenne en Twingo, une ceinture noire de Feng Shui, et un happening d'art contemporain rendant hommage à Guy Debord.
Eh bien, écoute, je donne ma langue au chat.
Alors, ardu, hein, le point commun. C'est Moon River, la BD de Fab Caro aux éditions Six Pieds Sous Terre, éditeur qui avait aussi publié Zai 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 Zai, du même savoureux et trublion Fab Caro. Moon River mêle dessin en bichromie, en couleur et roman photo. 80 pages vous embarquent dans une enquête policière menée par l'inspecteur Ernie Baxter, prénom prédestiné pour la hernie discale. La BD incarne le polar dès la belle couverture noire cartonnée et gaufrée avec une typographie argentée et une empreinte digitale. Un indice. Le pitch de Moon River est tout aussi simple que les pistes de l'enquête gaiement tarabiscotées. La célèbre actrice Betty Pennyway vient d'être victime d'un crime sordide sur le profil droit de son visage. Heureusement, son meilleur profil est le gauche, ce qui laisse présager d'épisodes cocasses pour le tournage du dit western. Ce polar burlesque, foisonnant de comiques cyniques et à l'humour à froid délicieusement dévastateur, nous entraîne dans une hilarante résolution d'enquête qui zigzague entre Madame Pervenche dans le salon avec un chandelier et un petit jeu du bac. Comme toujours chez Fab Caro, le comique dépasse l'absurde. Le non-sens déjanté révèle une humanité perdue mais friande de rire aux éclats sur ses travers. Chez Fab Caro, le langage est tant utilisé à contre-pied qu'il n'est plus un moyen de communication. Bienvenue dans la dérision et l'autodérision. On rit beaucoup. Je rappelle les références, Moon River de Fab Caro, aux éditions Six Pieds Sous Terre.
Merci beaucoup Gaëlle. Guillaume, je crois que tu es venu aussi avec une bande dessinée.
Oui, c'est le hasard. Bon, après, je note que tu n'as pas dit quel était le dessin sur le visage de l'actrice.
Il ne
faut pas le dire, surtout pas, hein, parce qu'évidemment, ça fait partie de la drôlerie de la BD. Alors moi, je voulais évoquer effectivement une bande dessinée qui vient de sortir de Vincent Lemire et de Christophe Gaultier, Histoire Jérusalem. Alors moi, je connais Vincent Lemire en tant qu'historien, puisque j'ai lu effectivement son Jérusalem, histoire d'une ville monde. Et donc là, c'est une sorte d'adaptation de ce livre. Alors évidemment, il n'y a pas tout le côté foisonnant historique qu'il y a dans son livre, mais la bande dessinée reprend quand même toute l'histoire de la ville de Jérusalem. Et c'est absolument passionnant parce que, évidemment, on se retrouve devant le mur des Lamentations, on se retrouve sur le Mont des Oliviers, on se retrouve sur le Dôme du Rocher. Et donc, on apprend des centaines et des centaines de choses, parce que ce qu'il faut souligner, c'est que cette bande dessinée, voilà, est totalement historiquement véridique, puisque c'est un historien qui a donc écrit le scénario. Donc je rappelle le titre, Histoire de Jérusalem, Vincent Lemire, Christophe Gaultier, et c'est aux éditions d'édition Les Arènes BD. Je précise quand même que c'est un gros livre pour une bande dessinée qui fait bien 250 pages. Donc voilà, vous ne serez pas floué sur la marchandise. Vous voyagerez léger et gratis.
Merci beaucoup Guillaume. Ça donne envie effectivement parce qu'on parle souvent de cette ville comme étant le carrefour de tous les conflits, le carrefour de toutes ces religions, le fameux livre. Et c'est vrai qu'on ne sait pas tout, sans doute. Très important en fait d'en avoir les ressorts historiques. Sortir du mythe. Pour ma part, cette semaine, je vais terminer par une découverte que je vous livre. L'œuvre éphémère et spectaculaire de Théo Mercier, exposée actuellement à la Conciergerie de Paris jusqu'au 8 janvier prochain. Alors, pourquoi vous parlez de la Conciergerie de Paris alors que nous sommes à Lyon ? Eh bien, parce que c'est un coup de cœur, tout simplement. Voilà, je suis restée totalement esboubie par cette exposition. Cette exposition s'appelle « The Sleeping Chapter ». Est le troisième chapitre du triptyque Outre-Monde de cet artiste. Dans un environnement à la fois désert et vivant, la salle des gendarmes, donc ça s'appelle comme ça, hein, pas gendarme, mais gendarme en deux mots, devient une cathédrale des sommeils et un abri de rêves. The Sleeping Chapter transforme votre expérience du mouvement, des fragments d'architecture en ruine, écrase l'oreiller d'un lit d'enfant proposant un voyage dans le temps et dans la nuit des temps. Les sculptures de sable, oui, j'ai bien dit les sculptures de sable, dont la couleur fait écho à celle de la pierre du palais de la cité, prolongent son histoire. Sous les voûtes séculaires de la conciergerie émerge du sol un vaste paysage de lits de sable, fraîchement défaits et veillés par des chiens de sable. Ces sculptures pensées et créées in situ évoquent des dormants gardés par leurs fidèles chiens. Une installation sonore et lumineuse conçue pour cette exposition vient matérialiser ces présences invisibles, l'empreinte des corps, le pli des draps, l'écho des souffles et des pulsations. Si vous allez à Paris, entrez dans ce bâtiment chargé d'histoire et habité par les fantômes du passé. À découvrir également en images sur le site de la conciergerie, www.paris-conciergerie.fr. Allez, bonne semaine, à bientôt.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.